Alors tu veux faire danseur?
And push. And turn and people down.
Qu'est-ce que ça te fait au juste lorsque tu danses?
Qu'est-ce que vous voulez dire par là, préciser?
Je suis heureuse et fière de faire partie de l'affiche de ce spectacle.
Transmettre au millimètre près les mouvements.
J'ai fait de la danse dans mon jeune temps.
Ça suffit, on se tourne vers le miroir, allez!
Et bienvenue dans une nouvelle semaine des Monts Chaussures, votre émission dédiée à la danse dans des nouveaux locaux avec toujours notre équipe accueillant qui nous donne beaucoup de sourires et beaucoup de soutien technique. Donc bienvenue à cette nouvelle semaine. Aujourd'hui, comme promis, je vais vous amener une surprise avec une chorégraphe que j'ai pu connaître. Et donc aujourd'hui, on va explorer notre perception à partir de sa création, de son travail, de sa méthode et de ce qu'elle peut nous partager. Bonjour Anne Lopez.
Bonjour, merci.
Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Qui tu es? Comment tu te présentes?
Je m'appelle Anne Lopez. Je travaille avec une équipe extraordinaire au sein de la compagnie Les Gens du Quai, basée à Montpellier depuis 1993. Je suis née à Paris, grandie dans le Gard. J'ai toujours dansé, petite, sans prendre de cours. Et puis est venue la technique, l'apprentissage. Et puis très vite, je suis devenue interprète. Très vite, j'ai eu envie de faire des pièces. Et j'ai la chance de le faire depuis tout ce temps.
D'accord. Donc il y a quand même une exploration de la danse qui est plus personnelle, qui est un peu en dehors de l'école aussi.
C'est, ça a commencé comme ça. François, mon frère, était autodidacte musicien. Et il faisait du piano à la maison. Et puis moi, je dansais sur ses musiques de manière intuitive, sans penser à rien. Je laissais ma bobine se dérouler. Et puis, c'est à l'adolescence que j'ai pris des cours de danse dans une école et que j'ai compris que danser pouvait s'apprendre et danseur pouvait être un métier.
Pouvait être un métier, très bien. Mais il y a quand même un rapprochement que j'ai fait avec Laura,
mon assistante, ma complice.
Ta complice qui nous a aussi fait partie de cette... elle vient de la country et de la sévillane.
Oui.
Et qui nous avait montré comment pour elle avait été aussi initiateur de voir ces danses-là qui sont dans son communauté, qui ne sont pas dans le contexte, pas encore dans ce contexte d'école. Et que dans cette émission, on aime beaucoup ces contacts directs avec les danses traditionnelles, si on peut le dire comme ça. En tout cas, il y a les danses urbaines, elle en avait parlé aussi. Et donc, Anne Lopez est originaire de...
Alors, Anne Lopez, c'est vrai que ça sonne espagnol, mais je ne parle pas du tout l'espagnol. Nous, nos parents sont nés en Algérie. Quand l'Algérie était française avant l'indépendance, et puis on a hérité de cette histoire avec tout ce bagage qui était bon. Voilà, on est un peu apatride, c'est-à-dire nos origines, elles sont très mélangées. Moi, j'ai goûté à tout ce que l'Algérie peut donner de merveille, de richesse dans sa culture. Et j'ai l'impression, Anne Lopez, que c'est mon patronyme de chercheuse en danse. Mes origines, elles sont vraiment multiples. Elles sont liées à tous les gens que j'ai rencontrés dans ma vie.
C'est plus un prisme qu'un écran.
Oui, c'est ça.
Ben c'est très intéressant de voir comment tout ça, ça touche aussi à la discipline de la danse qui est toujours très imbriquée avec toutes ces questions qui sont très limites et frontalières des difficultés, parce qu'il faut le dire comme on sait, quand on est binational ou quand on est en conflit dans une frontière ou frontière maritime, etc., c'est toujours quelque chose qui va toucher la danse. Notamment parce qu'elle est très indisciplinée, elle va pas justement laisser faire les situations. Et la danse, pour moi et pour nous, nos chers auditeurs, elle transmet beaucoup ça. Elle transmet souvent des choses très très fortes. Et donc tu m'as dit que tu avais commencé en 1998 avec un spectacle qui s'appelait Meeting.
Oui.
De quoi parlait-il ?
Alors c'est notre première pièce. J'avais lu Najda d'André Breton sur la question du qui suis-je, et cette question-là de cette exploration du qui on est, de cette dimension forte de la subjectivité et de cet étranger qu'on peut être, qu'on a, qu'on porte en soi. On l'a traduite avec François, avec mon frère, et puis l'équipe de danseurs qu'on était, en créant un dispositif de plaques qu'on avait mis, des plaques en bois qu'on avait mises au sol, et François avait branché des micros sous ces plaques reliées à des boîtes d'effets, et il créait le son en direct, et donc la danse créait la musique en direct, et c'est la rencontre du son qui génère ce geste-là. Et pour moi, c'est fondamental de vouloir faire un geste, ça n'est pas laisser advenir le geste. À travers...
Je n'ai pas compris.
Et ben, si je dis là, on va fabriquer un geste, on va vouloir fabriquer un geste, ça n'est pas la même phrase que de dire on va laisser émerger un geste, on va laisser advenir un geste, on va laisser se dérouler un geste. Et le fait de ne pas vouloir contrôler,
le provoquer quoi.
Seul, mais de le faire dans une dimension de traduction avec de la musique, une image, un paysage, une photo, une musique, ça n'est pas la même chose. La danse, elle est à l'interstice de chaque chose avec une autre chose.
Oui, c'est très intéressant. Je m'intéresse beaucoup à comment les chorégraphes essayent de représenter quelque chose qui est de l'ordre de l'insaisissable à chaque fois, parce qu'il y a de la transpiration, parce qu'il y a du son, parce qu'il y a une contamination avec quelques disciplines autres, et c'est toujours très conflictuel dans le bon sens de voir comment vous le chorégraphe arrive à mettre ça sur papier avec des fulgurances très très notoires, comme par exemple Duncan quand elle fait des dessins qui sont très forts, parce que ça parle, on a tout de suite la sensation du mouvement. Et donc tu m'avais parlé de quelque chose aussi qui m'avait beaucoup plu, de ta perception sur la jeunesse, parce que tu as un contact avec...
Depuis le départ de cette action de créer des spectacles, on aime mener nos résidences de création, bon, dans les studios, dans les théâtres, mais aussi dans des établissements scolaires ou dans des lieux qui ne sont pas propices à la création, avec des publics qui ne sont pas habitués à la création. Et ça a toujours été incroyable de richesse. Et puis là, depuis 10 ans, peut-être depuis les attentats ou un peu après, on s'aperçoit que le vivre ensemble est de plus en plus difficile. C'est dur pour ces jeunes ados d'aller vers quelqu'un qui ne lui ressemble pas, qui n'a rien de commun avec lui. Et on sent la fracture dans les groupes d'ados, mais même entre garçons et filles. Et ça m'a donné envie de travailler sur la question de l'hospitalité. Là, on est dans une série avec François là, et l'équipe et Laura, une série sur les origines, nos origines. Mmh. Et on a fait une première pièce qui s'appelait Lopez et Lopez, puis une deuxième qui est mon solo, même Les araignées dansent. Et puis là, c'est
d'accord,
le troisième.
C'est une pièce de 2025.
Voilà, c'est mon solo sur la transmission, de quoi on hérite et la beauté de la relation qu'on a avec...
Il y a un chevêtrement quand même dans tes sujets,
oui.
Non
sans... Ah oui, toujours, ouais.
On
ouais.
voit qu'il y a
un
tissage.
J'essaye de tramer, de tresser. Et puis là, l'épopée, c'est une pièce un peu
l'épopée
chorale.
Qui est de 2027, c'est pour 2027.
C'est pour 2027, c'est une pièce qui aura un peu l'apparence d'un opéra. Ça va chanter, danser, jouer. C'est une pièce avec un groupe d'interprètes professionnels et puis un groupe d'amateurs qui auront participé au temps de création. pour avoir une distribution bien diversifiée, très, très complexe, très hétérogène. Et c'est une pièce qui va nous amener à traverser plusieurs fois la Méditerranée, puisque nous allons essayer de trouver des résidences en Algérie, au Maroc, en Tunisie, à Malte, en Espagne, dans le plus d'endroits possibles qui bordent la Méditerranée.
Qui bordent justement cette géographie qui traverse un peu ton esprit.
Oui, qui traverse aussi l'histoire familiale. De ce qu'on a vécu. Et puis aussi qui traverse l'histoire de ces jeunes ados de quartier, des jeunes descendants de migrants. Qui portent aussi des valises qui sont pas les leurs et qui ont une idée de ça. Et c'est intéressant. Bah oui, quand on va travailler aux Escoliers, de la Mosson à la Paillade ou à Foncara, dans des collèges où il y a une...
J'habite à côté, Foncara.
Voilà, où il y a une grande population de jeunes qui sont des jeunes descendants de personnes qui viennent du Nord-Afrique, de l'Algérie, du Maroc. Ils ont plein de choses à dire sur... on est français, on est arabe, on est algérien, on est tunisien. Ils se posent beaucoup de questions. Et puis, quand on danse avec eux, quand on fait des ateliers de pratique artistique qui sont vraiment reliés à la création, ils oublient tout sur... mais au fond, nous, qui on est? Est-ce qu'on est plus français qu'algérien? Mais ils mettent le doigt sur « et si on était danseur ?» Et cette idée que danseur, c'est à travers les continents, à travers les océans, on est danseur. Quand on est danseur, on est habitant du monde.
Habitant, oui, on est comme un nomade.
Nomade.
Dirait un chorégraphe que William Petit, qui aime beaucoup le nomadisme. J'ai oublié ce que je voulais te poser comme question par rapport à cette un peu des connexions de la jeunesse entre eux, c'est-à-dire c'est dingue parce que c'est quand même à travers l'altérité, à travers l'autre, que je confronte les limites de ce que je suis pas, justement. Et tu crois qu'il y a une petite cause, parce qu'on est dans un monde qui est hyper connecté, et c'est quoi ton opinion par rapport à cette possible...
Je pense que dans les petites classes, on n'apprend plus. Les enseignants, sans doute, ont trop de charges et trop de programmes et puis trop de travail avec l'apprentissage de la lecture et l'écriture. Et il y a peut-être quelque chose où il n'y a pas assez de place sur la question de l'inconnu. La question du lâcher prise et puis cette histoire de on va expérimenter quelque chose et on ne sait pas ce que ça va donner. Il y a vraiment, je trouve quand même que cette forte tension vis-à-vis du résultat, du chiffre, du résultat, et si on ne sait pas lire en CM2, c'est fichu, il faut aller en Ulysse, etc. C'est une tension sur la réussite scolaire, la réussite. Cette tension-là sur l'objectif, elle ne laisse plus la place à autre chose. Et autre chose, c'est arriver à se régaler, à... faire les 400 coups avec quelqu'un qui n'est ni de la même religion, ni de la même communauté, et qui va... Voilà. Et donc, c'est très difficile après, en quatrième et en troisième, et pour des ados de 15-16 ans, de faire cette expérience de l'inconnu si, dans la petite enfance, il n'y a pas eu cette place.
C'est un réel défi de n'importe quel système éducatif. Moi, j'étais formé pédagogue en théâtre, et c'est vrai que c'est toujours un grand défi d'éduquer dans un moule qui existe déjà, qui doit donner des résultats, parce que malheureusement c'est les directeurs d'établissement qui sont obligés, c'est un défi pédagogique énorme encore
Et grâce à l'épopée, ce projet de création, on va en maternelle, en école élémentaire, en collège, en lycée, et on fait le même travail de partition et d'écriture. Et c'est le projet qui nous rassemble. C'est ce projet qui nous rassemble. Et il n'y a pas de réussite quand on fait un projet artistique. Il n'y a qu'un partage. Il n'y a pas de réussite, mais il n'y a qu'un partage. Et ce partage de cette expérience, de cet objet artistique qu'on va pouvoir présenter aux parents, aux autres classes, ça fédère énormément les élèves. Donc, à chaque fois qu'on voit que des groupes sont très distincts, on s'aperçoit après 15 jours après notre passage qu'il y a des relations qui sont nées, qu'il y a des, il y a des accointances qui sont nées grâce à la pratique de cette création.
C'est drôle, Laurence Loup peut parler de quelle réunion des personnes fait déjà une composition.
Voilà.
On danse. On va vous laisser 2 secondes avec une petite surprise latino-américaine des personnes qui aujourd'hui ont une 60aine d'années. Merci Alice. Nous revenons avec cette respiration énorme de Salsipuedes, cette ville où l'amour ne meurt jamais. Avec Anne Lopez, aujourd'hui notre invitée de la compagnie Les Gens du Quai, avec un parcours extrêmement riche, parce que tu as un diplôme de psychologie.
Oui, psychoclinique. Oui.
Psychoclinique, et donc tu me disais que tu travailles avec, depuis très jeune, avec des personnes en situation de handicap, notamment dans les spectres.
Oui, autistique, des enfants, adolescents, adultes autistes. C'était quand je me suis inscrite en fait à la faculté de psycho, puisque j'étais interprète pendant une année dans une compagnie. J'étais danseuse, il n'y avait pas de souci. Et puis je me suis rendu compte que il manquait quelque chose. J'avais besoin que ce soit nécessaire, que ma pratique artistique elle soit utile et nécessaire. Alors j'ai quitté la compagnie dans laquelle j'étais, puis je me suis inscrite à la fac de Montpellier, et puis j'ai fait des stages dans les pédopsychiatries où il y avait des enfants autistes, et puis j'ai, de manière assez expérimentale, inventé mon cadre d'atelier de danse avec les autistes, et il m'a fallu 5-6 ans pour comprendre que je faisais pas de danse-thérapie. Moi, j'étais pas du côté de la danse-thérapie, mais j'étais vraiment du côté de la danse, danser avec un autiste comme on danse avec un danseur, pour essayer de créer la plus belle danse qui soit, pour que nos danses soient quelque chose d'aussi intense au niveau de la sensation et de ce qu'elle renvoie que n'importe quelle autre danse. Et du coup, bah, ça m'a permis de rencontrer plein d'équipes dans plein de services spécialisés d'accueil pour enfants autistes, adolescents autistes, à Bagnols-sur-Cèze, à la Colombière, à Montpellier. Avec François, mon frère, qui est réalisateur, on a fait deux films, Les 10 petits danseurs et Les géographes.
Qu'on peut trouver sur,
sur notre site. Jeanduquet.org. Qui essaye de rendre l'image à l'autiste. Et on va dire que pour aller vite, c'est la question du geste qui m'intéressait. C'est comment est-ce qu'on peut passer de la stéréotypie enfermante à la question d'un geste qui est vraiment du côté de la relation.
La stéréotypie enfermante, c'est...
C'est quand un autiste, une personne autiste va se balancer avec toujours le même geste et va avoir vraiment un geste qui est très stéréotypé, qui revient sur lui-même. Et puis quand à un moment donné, du fait de l'improvisation à deux, et puis d'une technique qui est liée à l'imitation immédiate, vraiment reproduire le geste de l'autre, mais dans l'immédiateté et pas dans l'après-coup. Oui. Arriver à être vraiment immédiatement avec l'autre, créer comme une image qui fait écho et qui lui fait comme une caméra, ça permet à la personne autiste de sortir un geste différent. Et puis, comme ça, se développe des gestes qui sont des gestes dansés liés à un duo. Et j'ai une anecdote, je ne sais pas si je peux à la Colombière avec Olivia, qui était une personne adulte autiste. On était en train de créer un spectacle mis en scène par Christophe Barra à l'époque, Gilgamesh, et puis donc on était tous les jeudis matins en train d'être dans ces répétitions, dans ces temps d'atelier, et Olivia était une petite dame toute recroquevillée, avec un peu les dents cassées. Elle avait été attachée à un chauffage pendant des années. À la Colombière, à l'époque, c'était comme ça. C'était l'ancienne époque où, pour éviter que les autistes se tapent, ils étaient attachés. J'ai décidé d'être dans la même position, en parallèle, vraiment pas en face d'elle, mais en parallèle, de même position, même direction, et d'essayer de refaire ces gestes en même temps, avec les mêmes sons, d'être dans une immédiateté, une simultanéité. Et puis d'atelier en atelier, de jeudi en jeudi, nous étions comme ça, et je m'étais dit, c'est bien... Déjà, j'arrive à le faire. Et puis, petit à petit, j'arrivais de moins en moins à le faire. Je n'arrivais plus à être en même temps qu'elle. Et je me disais, oh là là, je suis fatiguée, j'y arrive pas. Qu'est-ce qui se passe? J'y arrive pas, je suis fatiguée, j'y arrive pas. Et puis, la lumière s'est allumée dans mon cerveau. Et je me suis dit, ah non, elle joue. Elle est en train de jouer avec moi. Elle joue, elle dialogue. Donc, quand j'ai compris qu'elle dialoguait, moi aussi, j'ai dialogué. On a dialogué pendant plusieurs jeudis ensemble, avec des sons différents, avec des gestes différents, sans croiser nos regards, sans... faire aucun geste l'une envers l'autre, mais on était dans un dialogue, c'était comme une improvisation dansée musicale. Et puis un jeudi, un jour, elle a croisé, elle est venue mettre sa main vers mon regard, vers mon visage, elle a pris ma main et nous nous sommes levés. Et là, ça a été la sidération. Personne n'aurait pensé que nous nous lèverions ensemble.
C'est une quand on enlève le regard, c'est quelque chose de très riche.
Oui.
Non, on pourrait, parce que dans les ballets, on a toujours la tendance, le regard est posé quelque part, tandis que là, c'est une exploration absolument différente où il y a d'autres énergies qui apparaissent, qui ne sont pas forcément liées à la vision, et notamment pour les personnes autistes ont beaucoup de problèmes à fixer un regard, c'est ça?
En fait, les personnes autistes, elles captent tellement tout loin et même au-delà de ce qu'on peut penser. C'est pas qu'elles sont enfermées, c'est qu'elles ressentent tout très fort et qu'elles se protègent en s'enfermant. Et du coup, il faut qu'elle soit bien sûre que la personne qui est avec elle ne va rien leur imposer, ne va pas être une menace, ne va pas être un danger, que la relation va être simplement une relation de danse, pour qu'elle se délivre de cette stéréotypie et rentre en relation.
D'accord, ouais.
J'ai jamais autant appris que de danser avec une personne autiste, parce qu'il faut être dans une écoute magistrale, sans vouloir enfermer l'autre dans une direction, dans une intention. Donc il faut être à l'écoute avec une empathie absolue et se dire, ça peut aller absolument partout, dans n'importe quelle direction.
Oui. Je rappelle à nos auditeurs que dans un autre épisode, on avait parlé pour Laurence Loupe quand elle essaie de définir le mouvement. Mm-hmm. Et elle fait allusion directement aux personnes en situation de handicap parce que c'est pas avec le mouvement bon qui va pouvoir être défini ce qui est réellement le mouvement.
C'est
quand il y a une atrophie ou qu'il y a un problème qu'on peut vraiment reconnaître. Quelle mécanique corporelle existe, comment est-ce que ça marche, pourquoi, etc. C'est extrêmement passionnant et c'est un sujet absolument qui m'attache énormément. Et donc on est en train aussi de penser que on a peut-être loupé quelque chose que j'ai voulu entendre sur ta maman et cette pièce avec laquelle tu travailles, même les araignées dansent.
Oui.
Et, si tu peux en parler
Alors,
un peu.
Ma mère, qui est partie en 2019, était quelqu'un d'extraordinaire.
Ah,
oui, à tout point de vue. D'abord parce qu'elle m'a... Moi, je suis née en 72 et puis elle m'a vraiment laissé être ce que je devais être tout en me transmettant une force incroyable. Une force qui est de dire ce qui compte, c'est de chercher et pas de trouver.
Ah.
Et ça, je crois que ça, c'est... Alors, jeune, je ne savais pas que c'était plus incroyable que n'importe quelle pierre précieuse et n'importe quelle... Ça n'a pas de prix de comprendre ça, ça n'a pas de prix d'avoir cet outil-là comme transmission. Ma mère était psychologue et elle dansait et elle chantait et elle était du côté du vivant, du côté de la nature. Elle était en dehors de toute convention et de tout code. L'histoire d'une vie sociale codifiée, ça ne l'intéressait pas. Ce qui l'intéressait, c'était d'être sans arrêt en train de s'améliorer, de comprendre, d'apprendre par l'expérience. Donc, même les araignées dansent, c'est un solo vraiment que je lui dédie. J'ai eu beaucoup de mal à me sortir de ce chagrin de l'avoir perdu et puis écrire ce solo, ça m'a permis de me dire ah oui non, je l'ai pas perdu, je l'ai bien au contraire bien présente et au fond de moi et puis dans tout ce que j'aperçois de la vie du monde. Donc c'est une pièce qui m'a permis déjà de remonter à la surface et d'agir positivement optimiste sur le monde tel qu'il est aujourd'hui, sur tout ce qu'on peut y faire, toutes les capacités qu'on a. On est au contraire, on est dans une ère où tout est possible.
Et il y avait des gestes qui ressemblaient de ta maman, que tu reconnaissais toi-même dans ton corps.
Ah oui, moi j'ai... C'est pas que des gestes, son intonation de voix, sa manière de marcher et de se mouvoir, d'être au monde.
Sa signature corporelle, quoi.
Sa signature corporelle, oui, j'ai plaisir à entendre que je lui ressemble beaucoup. J'ai plaisir à entendre ça. Et après, elle dansait le rock'n'roll avec mon père, elle se régalait à danser, elle faisait pas de danse contemporaine, elle a jamais improvisé, mais elle avait ce goût de la perception de chaque petite chose, de chaque petit mouvement.
Oui, oui, il y a énormément de choses quand on apprend un geste, c'est pas qu'un geste, c'est pas qu'une séquence de mouvement. Et dans la dernière minute qui nous reste, tu vas essayer de nous décrire un geste préféré.
Alors, le pas de bourré. Le pas de bourré qu'on peut trouver dans plein de danses. Si on part du pied droit, donc on a les deux pieds posés au sol en parallèle, et puis le pied droit va aller croiser le pied gauche derrière. Donc le pied fait un pas derrière le pied gauche et puis le pied gauche va se décaler pour se remettre à côté du pied droit et puis le pied droit va revenir faire un pas en avant. Donc c'est trois pas pour quatre temps. Donc pied droit derrière, pied gauche qui décroise, pied droit qui avance et on attend un temps.
Voilà, ça peut sembler compliqué mais quand on peut l'apprendre avec quelqu'un, C'est faisable. Bon, merci beaucoup. On te souhaite beaucoup, beaucoup de bonheur et des réussites à tes programmations partout. Ici, dans cette émission, tu trouveras toujours un ami, un amant de la danse qui restera fidèle.
Merci pour l'accueil.
Merci. Merci beaucoup à l'équipe de Divergence. Et on vous souhaite une belle semaine et je vous retrouverai la semaine prochaine avec une nouvelle émission.
Alors tu veux faire danseur?
And push and turn and people tap.
Qu'est-ce que ça te fait au juste lorsque tu danses?
Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Précisez.
Je suis heureuse et fière de faire partie de l'affiche de ce spectacle.
Transmettre au millimètre près les mouvements.
J'ai fait de la danse dans mon jeune temps.
Ça suffit! On se tourne vers le miroir, allez!